Bonsoir, vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu ni maître ni publicité, et c'est Jeudi Noir qui fait sa rentrée. Voilà, vous venez d'entendre un morceau que vous avez bien évidemment reconnu, un morceau de Tiny Tim, qui a été repris ensuite par les Doors. Non, bon, c'est l'inverse, évidemment. C'est People Are Strange. Donc c'était, il paraît-il, une espèce de Tiny Tim, une espèce de spécialiste du ukulélé. Et donc, ce soir, Jean-Mathias va nous faire une spéciale Mélenchon. Donc on va se moquer de lui toute la soirée. Et évidemment, à partir d'un livre de Chantal Mouffe et de Inigo Herrerón, je le prononce très très mal, j'en suis navré, à partir d'un bouquin qui s'appelle « Construire un peuple pour une radicalisation de la démocratie ». Alors moi je ne l'ai pas lu, c'est un livre rouge. Voilà. Je crois qu'il y a des cordes dessus, je crois qu'il il a été édité aux éditions du Cerf. Alors le Cerf c'est plutôt des trucs cathos, non?
Ils ont publié Sarkozy.
Ah, ils ont publié aussi Sarkozy, on m'a dit. Donc Jean-Mathias, franchement, mais qu'est-ce que tu nous fais commenter comme bouquin, quoi.
Ils sont ouverts sur le monde, quoi.
Ouais, ils sont ouverts sur le monde, ah, il y a Gramsci, machin. Donc voilà, donc Chantal Mouffe, on a déjà parlé. On a dit qu'on se moquait pas des noms, mais et là, elle a plus ou moins, comment dire, c'est plus ou moins une des têtes pensantes de Podemos et de tous ces mouvements en Espagne.
Absolument. Et t'as pas dit, ça vient de sortir. Hein. C'est de 2017, c'est chaud bouillant. C'est une traduction. C'est sorti en Espagne en 2015. D'accord. Et donc c'est un peu moins chaud bouillant du coup.
Oui, mais un livre traduit en 2 ans en France, c'est quand même colossal.
Ouais. Bah, je me suis dit que c'est la rentrée, c'est l'automne, tout ça. Je me suis dit qu'on pouvait se faire une émission spécialement diplomatique, voilà, internationale, ouvert un peu au vent. au vent, tu vois, de l'autre côté des Pyrénées. Non, alors le choix du livre, c'est bon, voilà, donc c'est un dialogue en fait, hein, ce livre-là.
Ouais. Ça, enfin, moi, je reçois déjà des mails courroucés des auditeurs qui disent qu'il y a trop de mélanchonistes sur Jeudi Noir.
C'est vrai, c'est vrai. Moi, j'en connais pas personnellement, mais je.
Bon. On va les chasser du studio, hein, ça suffit.
Est-ce qu'on peut discuter des mélanchonistes quand même voilà. Donc non, bah, mélanchoniste en plus c'est un peu vite dit parce que donc ça c'est un, bon ça se lit bien, hein, c'est un dialogue. Donc Chantal Mouffe, tu l'as présenté, c'est plutôt une universitaire. Post-marxiste comme on dit quand on est précis. Donc elle est pas toute jeune. Et qui connaît effectivement un certain succès médiatique et politique là depuis disons 2-3 ans en gros hein, depuis les succès de Podemos en fait hein. Depuis les succès de Podemos alors je sais pas le prononcer mais c'est Iñigo Errejón. Bon,
on essaye.
Alors lui c'est le numéro 2 de Podemos. Hein, c'est le numéro 2 de Podemos, qui est un universitaire également, mais qui est pas simplement donc un universitaire puisque maintenant il est devenu quand même politicien professionnel. Donc c'est le bras droit de Iglesias quoi.
Est-ce que c'est lui qui était pour une ligne dure et qui s'est emplafonné, enfin une ligne dure, non ?
Non, c'est pas. Lui il est dans la direction de Podemos et c'est une des têtes pensantes, c'est un des idéologues très influencé par le Venezuela, donc par Chavez, par la Bolivie, donc par l'Amérique du Sud et par les mouvements nationaux populaires, on va dire, d'Amérique du Sud. Et c'est un des théoriciens de la stratégie de Podemos, quoi. C'est-à-dire le fait de, notamment, d'abandonner le clivage droite-gauche dans l'affichage et dans la mobilisation politique pour lui préférer une opposition entre le peuple et la caste, entre nous et eux, pardon. Alors, bon, je refais rapidement, mais ça, tous les auditeurs savent, hein, sur l'historique de Podemos. Donc, c'est ce parti qui a occupé à une vitesse éclair une place très importante dans le paysage politique espagnol depuis 2-3 ans, on va dire, et qui est issu, en fait, du mouvement des places du 15 mai à Madrid, de la Puerta del Sol. C'est ce mouvement social gigantesque là qui a paralysé l'Espagne. Après 2008, après la crise de 2008 qui a frappé durement l'Espagne. Donc vous avez ce mouvement, ce raz-de-marée social avec cette occupation des places là, qui dure plusieurs mois. Et puis l'émergence après de cette formation politique, la Podemos, qui est en fait une espèce de collection militante. Enfin, Errejón là, ou Iglesias viennent du trotskisme au départ. Mais il y a aussi il y a beaucoup d'autres personnes, hein, et puis d'autres tendances politiques là-dessus. Il y a des indépendantistes basques ou catalans, plutôt d'extrême gauche. Il y a des gens qui reviennent à la politique aussi pas mal. Et l'intelligence de ce mouvement-là, c'est d'avoir en fait construit une organisation un peu au départ très horizontale, à partir d'assemblées populaires, de conseils de quartier, beaucoup avec des militants des mouvements sociaux, hein, et d'avoir su en fait se positionner sur l'échiquier politique national espagnol en s'appuyant, mais sans les phagocyter complètement, ou sans toujours les phagocyter complètement, sur des listes citoyennes qui ont permis en fait de rafler un très grand nombre de municipalités en Espagne, dont évidemment la capitale Madrid et Barcelone.
On en avait parlé
hein, sur un très bon bouquin de Ludovic Lamant, là, Squatter le pouvoir, qui lui du coup était plus centré sur ces listes citoyennes municipales.
C'est des choses qui me semblent intéressantes, y compris d'ailleurs dans leurs échecs, parce qu'un peu comme Syriza, ça montre aussi, d'une certaine manière, les limites du système représentatif, plus ou moins démocratique. Alors, mais il faudrait voir.
Différence entre les deux, c'est que Syriza, ils sont au pouvoir, alors qu'eux, ils sont toujours dans une stratégie de conquête du pouvoir.
Oui. Mais en même
donc
temps,
c'est pas la même.
Il faudra voir après ce qu'eux donnent. Est-ce que ça change quelque chose? Syriza, ils ont fini par se...
C'est surtout qu'en fait, le contexte espagnol, c'est qu'en fait, c'est jusqu'à 2015, en fait, Podemos a une ascension foudroyante, notamment parce qu'ils savent en fait articuler des succès au niveau national et des succès au niveau municipal, au niveau local, qui en fait ne sont pas uniquement les leurs, c'est-à-dire en fait c'est le succès de listes citoyennes avec des dynamiques locales très fortes, et ils ont su effectivement profiter de ça jusqu'à 2015, et puis c'est en 2015 ils ont pris un tampon aux législatives, c'est-à-dire qu'en fait ils étaient sur une logique de blitzkrieg où en fait ils croissaient de manière exponentielle, et en 2015 ou 2016 je sais plus, hein, mais enfin il y a eu ce scrutin où ils ont fait un beau score, ils ont fait un truc, ils ont fait un 22%, mais ils sont toujours derrière le Parti socialiste espagnol, ce qui fait que ça leur permet pas d'être dans la position dominante à gauche qu'ils espéraient pour justement faire basculer les choses. Et c'est pas du tout dit qu'ils y arrivent. Hein, c'est pas du tout dit qu'ils y arrivent, parce qu'après, les logiques sur lesquelles ils se sont construites ont eu un succès assez foudroyant. Mais sur la suite, ça marque le pas, on verra bien. Bon, ce qui m'intéresse dans cette affaire-là, alors autant le livre, j'étais assez enthousiaste sur le livre de Lamant, là, Squatter le pouvoir, parce que justement, il était centré sur les dynamiques locales et il montrait toute la complexité, toute l'intelligence un peu tactique qui avait permis hein, à des gens sans forcément être des idéologues d'accéder à des postes de responsabilité municipale avec des vraies perspectives politiques au niveau local, en tout cas. Hein, il montrait aussi les limites de ça. Mais ça, c'était effectivement assez enthousiasmant. Là, alors c'est tout autre chose. Hein, là, on a vraiment affaire à deux idéologues, vraiment. Deux idéologues politiciens au bon et au mauvais sens du terme, hein, parce que voilà, vous avez un chef de parti dans cette affaire-là, et puis vous avez une intellectuelle organique, comme on dit, hein, donc c'est vraiment ça. Et donc là, on est vraiment dans la stratégie politique, assez intello, mais ce qui me paraît moins intéressant dans cette affaire, c'est que c'est quand même un mouvement qui concerne pas seulement l'Espagne, c'est-à-dire que on a en fait un débat sur effectivement la question du populisme et la question du match qui est en train de se jouer dans un certain nombre de pays d'Europe quand même, entre des forces populistes dites de droite, catégorie populiste étant pas claire d'ailleurs, puisqu'on y met un peu ce qu'on veut là-dedans, mais tous les mouvements d'extrême droite effectivement s'appuient en partie, pas seulement, et moins que ce qu'on dit souvent, mais ça appuie aussi en partie sur un électorat populaire. Et puis, effectivement, la montée, alors ça a été vrai en Grèce, c'est vrai en Espagne, c'est vrai aussi en France d'une certaine manière avec le Front de Gauche, même si, pareil, il faudrait regarder d'un peu près. Mais en tout cas, un électorat populaire et des stratégies, en tout cas, de certains partis qui ont tendance, effectivement, à mettre en avant une opposition plutôt entre le peuple et la caste, entre le peuple et les élites, avec le fameux dégagisme là, que Mélenchon essayer d'importer en France avec plus ou moins de succès. Mais c'est quand même un débat, je dirais. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment ces deux-là, la Mouffe et Erwan, en fait, théorisent la chose et en fait veulent redéfinir les débats politiques, au moins dans le domaine, dans la sphère électorale, parce que c'est quand même là qu'ils se situent. Hein. Ce ne sont pas des anarchistes abstentionnistes. Hein. Ils sont dans une stratégie de conquête du pouvoir. Comment ils essayent d'imposer des catégories vers une espèce de populisme de gauche, comme ils le revendiquent. Comment ça marche? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Quels sont les échecs qu'ils ont tirés? Comment ils se positionnent visiblement par rapport aux autres discours critiques radicaux à gauche, d'une certaine manière. Et des gens comme ça, avec cette cohérence-là, on est amené à en croiser en France aussi, dans les mouvements sociaux, partout, dans les mouvements de grève, dans les manifs. Donc tout ça me paraît intéressant, ça me paraît important de voir comment ça marche, cette affaire-là. Quels sont les points forts, parce qu'il y en a, je ne sais pas, que des imbéciles hein, dans cette affaire-là. Quels sont les points forts du truc, et puis aussi quels sont les points où ça colle un peu moins, quoi, hein, on va dire. Donc le projet, c'est ça. Alors le titre, voilà, construire un peuple pour une radicalisation de la démocratie. Au passage, je signale, enfin, pour avoir traîné un peu en librairie cet été, c'est hallucinant le nombre de livres qui sortent en ce moment qui veulent radicaliser la démocratie. Il y a plein de manières de radicaliser la démocratie, bon, tant mieux. Après, on verra, mais je crois qu'ils ne sont pas tous d'accord et c'est là où ça va devenir
compliqué.
Voilà, compliqué. Alors, il y a un autre point, je le dis, ça c'est pour le contexte un peu. Un autre truc, je pense, qui est quand même intéressant pour nous, et y compris ici sur Radio Libertaire, et puis pour les débats qu'on a, et puis les discussions qu'on a pu avoir ici sur cette antenne et dans cette émission, c'est que cette question du populisme, il me semble qu'elle a quand même des rapports. En tout cas, elle a des points de rapprochement avec un autre thème qui nous intéresse depuis assez longtemps ici, qui est en fait le thème de la plèbe. Et qui est un thème qu'on a déjà abordé un certain nombre de fois. On avait invité Olivier Razac notamment sur cette question-là. C'est aussi des débats qui existent en France depuis assez longtemps. Alors pas qui n'ont pas la même origine par contre. Ils viennent plutôt. C'est pas des gauchistes trotskisans ou en quête de pouvoir. Pas toujours en tout cas. Mais c'est un thème qui est aussi là. C'est une manière en fait de toujours par rapport une espèce de critique du clivage gauche-droite traditionnel, je dirais. Et des organisations effectivement politiques qui se sont construites dans ce clivage-là, voilà, historiquement. Donc bah voilà, il y a effectivement des gens qui travaillent là-dessus dans ce cas de la philosophie plébéienne. Il y a aussi un Canadien là qui a écrit un livre il n'y a pas très longtemps là-dessus sur cette tradition-là comme une espèce de une tradition démocratique, c'est un thème qui revient, que ce soit le peuple, que ce soit la plèbe, évidemment. On cherche à savoir qu'est-ce que c'est ce démos-là, dans la démocratie, là, effectivement, et comment on pourrait en faire quelque chose.
Démos, c'est en grec, ça veut dire peuple.
C'est le peuple, bien sûr.
Et donc, kratos, c'est le pouvoir.
C'est le pouvoir. Et donc, évidemment, il s'agit de savoir qui c'est ce peuple-là, en essayant d'en avoir une configuration un peu sympathique.
Sachant que plein de gens se revendiquent du peuple.
Tout à fait.
C'est un argument classique, le vox populi. Voilà. Ouais. Je parle au nom de tout, du peuple, du machin, voilà. Du bidule. Donc, ouais, là, rien que dans le sous-titre, construire un peuple. Ouais. Là, on voit aussi le côté un peu gauchiste ultra-intello.
Bien sûr, ouais.
Le peuple n'est pas une donnée, c'est quelque chose qui va se construire politiquement.
C'est ça.
Mais
pour nous, en tout cas, alors ça, c'est peut-être un truc à plus long terme, et puis il faudrait préciser, mais je crois que ça ne serait pas inutile aussi de regarder, justement, effectivement, par rapport à cette espèce d'approche en termes d'opposition plébéienne qui a ses partisans, y compris dans les mouvements libertaires. Hein, parce que
c'est un vieux débat,
oui, mais c'est ce populisme-là qui émerge là, effectivement. Et qui a des traductions politiques et puis qui à mon avis est amené effectivement à occuper un peu de place dans les débats, pas toutes, hein, je pense, mais quand même une partie, c'est à voir. Donc c'est ça qui m'a paru intéressant. Alors après, on avait déjà parlé de Chantal Mouffe il y a quelques temps sur un livre un peu plus théorique. Là encore une fois, ça se lit bien parce que c'est un dialogue. Bon, ce qui m'a gêné dans cette affaire-là, c'est que moi, ma culture libertaire, quand on a des gens qui discutent sur des stratégies d'état-major, ça me pose toujours un petit problème parce que on a l'impression qu'ils sont quand même en quête de piétaille, quoi, et qu'ils ont l'impression de savoir vraiment ce que pense la piétaille bien mieux que la piétaille elle-même. Donc évidemment, ça pose toujours un problème d'un point de vue libertaire. Après, ils ne posent pas que des mauvaises questions. Et puis, je pense qu'on a toujours intérêt, effectivement, à se tenir au courant, voilà, enfin, de ce que pensent nos futurs chefs ou ceux qui aspirent à le devenir et ceux qui font tout pour le devenir, ne serait-ce que pour que ça marche pas.
S'en protéger, oui.
Ouais. Alors, peut-être, je sais pas par où commencer, peut-être par la fin. Donc, le point essentiel, bien comprendre, c'est. Alors, ça, c'est écrit noir sur blanc. Un des fils rouges, c'est le fait de placer dans le débat et d'imposer au débat de plus en plus une nouvelle opposition entre donc nous et eux, c'est-à-dire entre nous le peuple et eux la caste. Alors comme tu disais tout à l'heure, le peuple évidemment c'est un signifiant un peu creux, c'est-à-dire qu'on y met un peu ce qu'on veut, et il le dit d'ailleurs là, Rehron le dit très explicitement, il dit mais finalement ce peuple qu'on veut construire nous, on définit pas le peuple, c'est pas une réalité sociologique, c'est pas non plus les prolétaires d'hier, c'est pas les exploités, c'est pas les salariés, c'est pas ça. Le peuple qu'on cherche à construire, nous, très explicitement à Podemos, en fait, on le construit par opposition à la caste. Hein, donc évidemment, c'est le peuple, c'est l'anticaste. C'est l'anticaste. Alors la caste, ce sont toutes les élites qui ont intérêt ou qui travaillent au service des dominants, donc c'est-à-dire effectivement voilà, de la finance, du pouvoir politique, de tout ce que vous voulez, mais de cette minorité-là. Et en fait, d'une certaine manière, le peuple, il se définit par rapport à ce qui est hors de lui, par rapport à ce qui s'oppose à lui, donc par rapport à cette caste. Bon, c'est un extrait, je vous lis ça très rapidement, page 212-213. Écrit par exemple, voilà, quand on écrit, donc là c'est Erron qui parle, hein, donc le militant, quand on écrit sur un autocollant ou sur une affiche « c'est l'heure des gens » et que ça interpelle avec succès, est-ce que ça dit quelque chose, pourquoi est-ce que ça dit quelque chose qui mobilise? Alors, qu'est-ce qui en fait un concept qui soit politique? Lui avons dessiné un « en dehors », il n'est pas applicable à tous, et ce serait pour ça que le peuple serait vide. Non, parce que tout le monde n'appartient pas à la catégorie des gens ordinaires, des sans-grades, de ceux qui ont besoin de s'unifier pour changer les choses. En ce sens, et si brutal que ça puisse sembler, la construction rhétorique établit la différence. Deux points, il y a les gens, et puis il y a la caste. Je veux dire que c'était un terme amorphe, très vide, que sa politisation vient de ce que nous lui avons défini un « en dehors ». Et puis, voilà, ça, le petit vernis intello, il y a matière à penser la question des signifiants, des termes politiques. Comment le discours construit du sens et des identifications politiques? Donc ça, c'est une stratégie qui est assumée. Hein. Arrêtons de parler de gauche et de droite. Hein, ça, c'est en tout cas... Et ça marche en Espagne et en France. Je pense pas que ça puisse marcher. D'ailleurs, Mélenchon le fait pas. Hein, il commence à le faire, puisqu'il parle plus du Front de Gauche, mais de France Insoumise. Hein. Donc, il y a ce virage-là qui opère. Mais il s'agit effectivement de construire un peuple en lui opposant une caste et en montrant effectivement que C'est comme ça que le peuple peut s'identifier. Alors, évidemment, son idée, c'est de pas couper tout héritage par rapport à la gauche, mais c'est comme ça qu'il faut le faire, d'après lui. C'est comme ça que ça mobilise. Parce que si on reste dans le clivage gauche-droite, d'une certaine manière, eh bien, on risque d'être prisonnier du jeu des partis dominants. Comme il le dit aussi, on l'a toujours, page 188, il nous dit, sur l'axe gauche-droite, les élites distribuaient le jeu en fonction de ce qui les arrangeait, eux au centre-droit, centre-gauche, et tous les challengers, ceux qui leur lançaient le défi, à la marge. Mais sur une frontière transversale citoyen-caste, les voilà désorientés. Ils se trouvent sur un terrain politique et symbolique très mal commode, de fait, montrant un certain épuisement de leur imagination politique. Ceux qui monopolisaient traditionnellement la politique ont été obligés d'admettre qu'il existe quelque chose qui s'appelle la caste. Et la meilleure défense qu'ils ont trouvée a été d'essayer de nous salir. Donc il y a ce souci voilà, de penser vraiment en stratège tout le temps, hein, et d'essayer de mettre dans l'embarras en permanence les partis dominants, qu'ils soient de centre-gauche ou de centre-droit. Ça, évidemment, ça va de soi que leur présupposé, c'est que, bon, là-dessus, on aura du mal à dire le contraire. C'est que toutes les forces dites socialistes ou dites social-démocrates, c'est des néolibéraux de gauche, quoi, d'une certaine manière, de gauche entre guillemets, donc ils font la même politique. Et que donc, effectivement, la seule manière de désorienter ou de changer effectivement la boussole du jeu politique, en termes de représentation, en termes d'élection, c'est de bousculer ce clivage gauche-droite, du moins en Espagne.
Hein. Comme dit une auditrice, la Pietaille n'aime pas la caste des chefs de la démocratie radicale populiste. Et c'est ce qui me frappe un petit peu dans le discours là que tu lis, c'est que malgré tout, c'est ultra intello.
C'est pas seulement intello, c'est aussi très politicard. C'est-à-dire que c'est un discours d'avant-garde du parti.
C'est clair.
Non, mais ça, c'est très clair. Cela dit.
Tu citais leur passé trotskiste.
Mouffe, elle vient du marxisme. En fait, son point théorique, je dirais, du point de vue de l'histoire des idées du marxisme et de l'histoire du marxisme, c'est en fait d'avoir été une de celles qui a contribué à liquider la dimension révolutionnaire du marxisme, on va dire, et d'avoir déplacé le débat. Bon, là-dessus, ça, c'est une question, on peut en discuter, mais d'avoir déplacé la question prise du pouvoir et révolution communiste, d'avoir déplacé le débat sur « on récupère la démocratie ». Et donc, ça veut dire qu'on assume effectivement un système représentatif. On assume aussi le fait que l'État soit...
Déjà, tu le trouves déjà chez Marx.
Tu trouves tout chez Marx. Tu trouves tout chez Marx. Mais du point de vue, disons que le marxisme orthodoxe, on va dire, le marxisme orthodoxe, c'est quand même, voilà, on prend
le pouvoir par les armes.
On prend le pouvoir par les armes, à un moment donné, de toute façon, on s'empare de l'État, et puis ensuite, on s'attaque au capital, quoi, voilà. Et donc, son idée, ça a été, en fait, de remettre dans la réflexion une question, une analyse... une certaine autonomie des questions politiques, en fait, par rapport au social, par rapport aux oppositions de classe. L'État, c'est ni un instrument neutre, ni un ennemi essentiellement à battre. C'est en ça qu'elle n'est pas du tout anarchiste. C'est un champ de force. C'est un champ de force. Et donc, effectivement, on peut effectivement infléchir et utiliser l'État dans un sens qui soit favorable aux subalternes, comme elle dit aussi parfois, aux citoyens, aux gens, au peuple. Donc, il y a cette idée-là. Donc, elle, si tu veux, c'est pas le trotskisme. C'est une manière de déplacer en quelque sorte les outils d'analyse de Marx et la notion d'antagonisme, en essayant d'en faire autre chose que simplement, en essayant de mobiliser aussi sur tous les antagonismes à l'intérieur de la société, pas simplement entre exploités, exploiteurs, ou capitalistes et prolétaires, mais aussi entre les différentes formes de domination, les différentes formes d'antagonisme qui travaillent une société démocratique. Et d'essayer, du coup, effectivement, de penser une gauche radicale dans le cadre de la démocratie, avec cette idée que finalement, avoir une politique démocratique radicale, c'est en fait accélérer et accentuer ces antagonismes, pas seulement de classe, en tout sens économique du terme, mais d'accentuer l'idée même d'antagonisme, en quelque sorte, pour faire péter l'idée de consensus libéral et de gouvernance au centre. Voilà. D'où, effectivement, le fait qu'elles s'entendent très bien avec des gens qui, eux, venant du trotskisme, cherchent à construire un peuple et puis une avant-garde efficace. Voilà. Donc, c'est la rencontre entre les deux qui fait tilt aux éditions du CERF.
On va faire on va passer un peu de bonne musique et puis on se retrouve dans 5 minutes.
C'est à nous aujourd'hui de savoir comment on occupe l'espace public.
La rue, elle est à
nous. Le gouvernement et les partis officiels, d'extrême gauche jusqu'à l'extrême droite, nous ne donnerons pas cette parole et c'est à nous de savoir comment faire entendre notre voix.
Il ne faut pas se battre avec leurs outils à eux, parce que ceux qui les ont inventés, c'est leurs règles du jeu, c'est eux qui les maîtrisent. Et si tu veux être sûr de perdre un jeu, joue avec celui qui a inventé la règle.
Chacun sa case et on oublie la lutte humaine. Colonisation trop subtile. Si je lutte contre la machine, pourquoi utiliserais-je ces règles? Apartheid de social et culturel. Le changement ne viendra pas d'en haut, on l'a compris. La guerre aux pauvres est déclarée. Nos institutions ne sont qu'au service de l'ennemi. Arrêtons de coopérer, arrêtons de coopérer.
On a en face de nous des gens qui sont pas dans la même volonté d'arranger les choses.
Ayons confiance dans notre capacité à créer des choses nouvelles.
La vie de ceux que j'aime, elle est en danger, t'as vu? Parce que quand la police, elle est supposée nous protéger, qu'est-ce qui nous protège d'eux? Personne.
La chasse à l'étranger voulue par Nicolas Sarkozy et son gouvernement s'accélère. Cette politique n'est qu'un copier-coller de celle de l'extrême droite.
Ça expulse des familles, des familles. De plus en plus de répression. Les infos se resserrent, de plus en plus de répression. Caméras de surveillance, de plus en plus de répression. Réapproprions-nous nos vies. Nous, on a besoin de créer de nouvelles vies.
C'est visé à un système qui soit horizontal, donc tout le monde aurait du pouvoir sur sa vie.
La politique se la réapproprier, la parole se la réapproprier, la rue se la réapproprier, les maisons se les réapproprier, se réapproprier tout.
Désobéissant, désobéissant, fasciste institutionnel, désobéissant, arrêtons de coopérer, désobéissant, on est la force de leur machine, désobéissant, le changement viendra d'en bas, d'en bas.
Ce qu'il faut, c'est réinventer son métier.
On doit comprendre que pour se défendre, il faut se rassembler. Mais il faut se rassembler, il faut avoir confiance en soi. Il faut croire en soi.
Surtout, n'ayez jamais pensé qu'on est isolé. Parce qu'on est connecté, on est des millions.
Construire quelque chose par l'autre.
C'est pas qu'en France, tu vois. C'est partout dans le monde la même. Parce que c'est partout dans le monde le même système de merde.
Il n'y aura pas de changement si la forme ne suit pas le fond. Si nos méthodes d'organisation restent les mêmes, on reproduira les mêmes erreurs.
Bonsoir, vous écoutez Radio Libertaire 89.4. C'est la radio de la Fédération anarchiste, sans dieu ni maître ni publicité. C'est Jeudi Noir qui se poursuit pour sa deuxième partie lors de cette émission de rentrée. Et donc Jean-Mathias nous présente un livre de Chantal Mouffe et de Inigo Herrerón, Construire un peuple pour une radicalisation de la démocratie, publié aux éditions du CERF il y a très très peu de temps. Donc c'est un livre tout chaud. Voilà. Et donc Jean-Mathias, dans la première partie, nous exposait un petit peu le... Comment dire, la stratégie politique d'Herrerón et de Mouffe, qui s'inscrit donc dans le mouvement politique espagnol Podemos, et donc avec un but finalement de, comment dire, construire une base électorale pour prendre le pouvoir, afin de réorienter, on pourrait dire, les rapports de force à l'intérieur de l'État lui-même, et de faire en sorte qu'il soit peut-être un peu moins défavorable. À nous contre ceux qui
soient moins favorables à eux,
qui soient moins favorables à eux. Voilà. Bon, vous savez de qui je parle. Donc en gros, on est dans les 1% des, comment dire, des c'est peut-être ça aussi le truc.
Alors, ça c'était le slogan d'Occupy. Voilà,
nous sommes 99%.
Alors c'est moins, comment dire, ils sont plus sûrs que ça, hein, parce qu'ils s'engagent pas sur des statistiques. Il y avait un papier de Serge Halimi, notre diplomatique cet été aussi, là, qui disait ça. Il montrait un peu les limites de ce slogan-là, hein, le fameux nous sommes les 99%. Ouais. Il disait que si ça suffisait d'être 99% pour que ça marche et pour qu'on change les choses, ça se saurait. Et qu'en fait, dans ces 99%, c'est le problème. Eux, ils sont pas là-dessus. C'est des purs, comment dire, pragmatiques. Il y a un côté comme ça. C'est des intellos, d'accord, mais c'est des intellos pragmatistes. C'est-à-dire que ils cherchent ce qui mobilise et ce qui mobilise dans un sens, défavorable à ce qu'ils identifient comme étant les dominants. Alors, dominants économiques, mais pas seulement. C'est-à-dire que, alors ça c'est aussi, c'est l'aspect intéressant de l'affaire.
Dominants universitaires ?
Pas simplement universitaires, en fait, si tu veux.
Je l'ai visé,
Le En fait, l'auteur de référence de Mouffe, si tu veux, c'est Gramsci, donc ce marxiste italien qui est sans doute ce qui s'est fait de plus futé hein, dans l'histoire du marxisme au XXe siècle.
Qui a une influence assez considérable, y compris sur l'extrême droite actuelle depuis les années 60.
Ouais. Et alors, en fait, le propre de Gramsci et ce qui fait l'intérêt de ce type-là, c'est que c'est un marxiste au départ, hein, ouais, c'est le dirigeant du Parti communiste italien, sous Mussolini, il va passer la majeure partie de sa vie en prison, etc. Mais ce que Gramsci a apporté au débat à l'intérieur du marxisme, je dirais, c'est ce qu'on appelle de plus en plus maintenant une approche métapolitique. Alors c'est un nom un peu compliqué, mais métapolitique, c'est l'idée que, d'après Gramsci, qu'au fond, l'idée d'un affrontement crucial, comme la révolution d'octobre ou la révolution chinoise, est une stratégie révolutionnaire qui est absolument inapplicable dans les pays occidentaux. Parce qu'en fait, on a une division sociale et on a un affrontement beaucoup moins frontal entre les classes, une diffusion des rapports de pouvoir et des dominations de classe qui est beaucoup plus hétérogène. Voilà, les classes sont beaucoup plus hétérogènes dans les pays occidentaux que ça a pu être le cas dans la Russie de 17 et en Chine. Et son idée, c'est en fait d'essayer du coup de réfléchir à tout ce qui fait le ciment, en quelque sorte, le ciment culturel de la domination de la bourgeoisie. Et d'après lui, la stratégie communiste dans les démocraties libérales occidentales, la stratégie communiste, c'est plutôt une guerre de position, plutôt qu'une guerre éclair où il s'agit de prendre le palais d'hiver. Guerre de position et une guerre de position qui est aussi une guerre culturelle.
C'est-à-dire qui va se mener à tous les niveaux. Tiens, exactement. C'est l'idée d'hégémonie culturelle.
D'où cette idée-là. Et qui n'est pas une idée, si tu veux, directement électoraliste ou même directement syndicaliste. Oui. C'est-à-dire qu'il s'agit effectivement de saper tout ce qui fait tout ce qui donne à la domination de la bourgeoisie un aspect naturel. Et ça, tu trouves ça, d'après Gramsci, dans tous les domaines de la vie sociale et culturelle. C'est-à-dire que ça joue aussi bien, alors pas de la même manière, bien sûr, hein, les clés, elles sont évidemment dans les usines, dans les casernes et puis dans les tribunaux. Hein, Gramsci est d'accord là-dessus. Mais pour que ça fonctionne, il faut que tu aies tout un appareil, ce qu'il appelle toutes les casemates, en quelque sorte, hein, toutes les casemates et toutes les défenses avancées, en quelque sorte, hein, de la bourgeoisie, qu'on va trouver aussi bien dans les arts, la philosophie, les sciences, l'université, la morale, etc.
Les spectacles.
Tout ce qui fait que, si tu veux, les gens peuvent avoir l'impression que l'ordre qu'ils vivent et la domination qu'ils subissent a un côté inscrit dans la nature des choses, quoi. Voilà. Et c'est évidemment pas plutôt malin comme manière de faire.
Bah, les capitalistes l'ont très bien compris actuellement.
Bien sûr.
Ils sont présents à tous les niveaux que tu viens de citer.
À tous les niveaux. Et bon, mais encore une fois, c'est pas nouveau, hein, parce que je te dis, Gramsci, c'est les années 20-30, et il y a plein d'analyses de ça. Et évidemment, ce qu'il pense aussi, c'est que l'hétérogénéité située des dominés dans les démocraties libérales occidentales appelle des alliances qui sont pas des alliances aussi nettes que le voudrait l'orthodoxie marxiste. C'est-à-dire, c'est pas simplement la classe ouvrière. Par exemple, en Italie, il y a toute une analyse sur les paysans, bien sûr, et la paysannerie du sud de l'Italie. Et la question, c'est d'essayer de trouver sur quel point, effectivement, allier les forces du prolétariat nord-italien et puis de la paysannerie du sud. Et c'est pas la même chose. Ils vivent pas exactement l'exploitation de la même manière. Ils ont pas le même rapport, voilà, à l'avenir, à la nature, au moral, aux formes de vie, etc. Donc, il y a toute cette analyse chez Gramsci, ce qu'on appelle parfois la métapolitique, où il s'agit, en fait, si tu veux, de construire petit à petit une description de la vie sociale, du monde social, mais dans tous les domaines, hein, qui permettent en quelque sorte de reprendre effectivement l'offensive. Pas pour avoir justement la révolution cruciale ou la prise du palais d'hiver ou voilà, et que d'un coup on fait sauter la banque et puis on est en régime socialiste. Mais il y a cette prise de conscience chez Gramsci. Et du coup, Mouffe est complètement là-dedans, si tu veux. C'est-à-dire l'idée.
D'autant que c'est des analyses qui peuvent être prises aujourd'hui par rapport aux changements socio-professionnels importants
sur la division sociale, en Europe du Nord. Du monde du travail.
C'est-à-dire le fait que la classe ouvrière étant...
L'atomisation de la classe ouvrière, sa relative intégration, ça, etc.
Et puis la montée du salariat et du nombre des employés qui n'était pas forcément bien vu par des partis communistes comme le Parti communiste français, par exemple.
Et alors ce qui est intéressant, c'est ce que tu disais aussi, c'est qu'en fait, les premiers à avoir lu Gramsci à la fin des années 60, c'est la Nouvelle Droite.
Hein. Oui. Donc c'est Alain de Benoist.
C'est Benoist, c'est le Grèce, et c'est ce qu'a fait une des matrices idéologiques de l'extrême droite européenne aujourd'hui. Et parce que justement, ils ont voilà, après 68 ils sont au fond du trou et en fait ils se disent attendez,
alors, après 45 ils sont au fond du trou, 45, ils réfléchissent à partir de là aussi,
c'est ça. Alors ils, de 45 à 68 ils relèvent un peu la tête et à partir de 68 ils se mettent à bosser. Et donc effectivement leur hauteur de référence, et ce qu'ils veulent inverser si tu veux, c'est effectivement utiliser ces analyses de Gramsci sur l'hégémonie culturelle, donc en fait tous les domaines dans lesquels on a un discours qui rend naturel effectivement la domination de la bourgeoisie, et utiliser ça eux à leur profit pour effectivement proposer une la régénération de la nation ou de la race, hein, quand ils sont plutôt c'est la matrice identitaire quoi, qui a utilisé ça. Et donc c'est pas inintéressant si tu veux que aujourd'hui, et aussi avec un succès quand même pas complètement nul, t'es des gens qui à gauche effectivement essayent d'utiliser ces outils d'analyse et qui déplacent aussi le débat sur ces questions là et typiquement ce que j'évoquais tout à l'heure, passer d'une opposition peuple caste où les gens et puis eux, voilà, c'est une manière de faire de la métapolitique, ça, hein, c'est-à-dire qu'effectivement on essaie de redessiner le champ idéologique, voilà. Donc il y a cet héritage là chez Mouffe, hein, depuis déjà, bon, elle a beaucoup travaillé là-dessus, et donc en faisant ça effectivement on fait de la métapolitique, mais on fait pas que du syndicalisme, on n'anime pas que des cellules de quartier ou que des cellules de parti. Alors d'ailleurs on peut se demander si à un moment donné il faut pas quand même parce que c'est bien les états-majors, mais effectivement quand t'as ni section syndicale, ni cellule de parti, ni maillage, tu vois, un peu de terrain, voilà, bon. Mais effectivement, c'est en même temps, c'est une réalité qui est pas nouvelle et puis à laquelle on est confronté. Donc ça, c'est le point, un des points intéressants, je dirais, voilà, sur le plan de l'approche, hein, de la situation. Donc là-dessus, je pense pas qu'ils aient fondamentalement tort. Après, l'autre point intéressant, je trouve, c'est la manière dont, en fait, alors on rentre un peu dans le détail, mais là, c'est pareil pour tous les auditeurs et tous les camarades, voilà, qui pratiquent un peu les âgés qui sont un peu impliqués dans le mouvement social, notamment quand voilà on est sur des luttes un peu hors piste, je dirais, c'est la manière dont ce discours là le discours qu'ils portent eux, hein, je parle de Mouffe ou Erron, se positionne par rapport à des concurrents du point de vue effectivement la gauche radicale. Alors bon, eux par rapport toujours dans la tradition marxiste ou post-marxiste aujourd'hui, par exemple, ils sont leurs principes, pas leurs principaux, mais certains de leurs adversaires importants, c'est des gens comme Tony Negri ou Michael Hart, par exemple, qui, en fait, eux, sont sur une approche...
Tony Negri vient de l'autonomie italienne des années 70. Il a eu son heure de gloire un petit peu quand il a écrit Empire avec Hart, justement, dans les années 2000. Ouais. Et il est du côté de la revue Multitude, des choses comme ça, c'est pour le situer un petit peu.
Donc, c'est quelqu'un qui, par exemple, alors qui est plutôt sur une option, effectivement, de la fin inéluctable du travail salarié, donc de toutes les luttes qui peuvent aller avec, qui met en avant beaucoup le développement du travail intellectuel et du petit entrepreneur à fort capital culturel qui finalement ne s'inscrit plus du tout dans le monde du travail type fordiste ou la société industrielle et en fait du coup les conclusions stratégiques qu'ils en tirent eux, et ça a eu une certaine influence dans le mouvement altermondialiste après les années 2000, c'est en fait de dire que finalement de toute façon il y a un développement du prolétariat, même si on ne parle plus de prolétariat de classe ouvrière, mais il y a un développement du prolétariat qui est inéluctable et qui va vers une atomisation, une individualisation de l'activité professionnelle, et qui fait que de toute façon, en même temps, la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, tous les outils de contrôle qui ont pu être mis en place au moment de la société fordiste pour effectivement extraire de la plus-value de la part des salariés et de la classe ouvrière, tous ces outils de contrôle vont devenir aussi en partie inopérants parce qu'on va avoir de plus en plus des travailleurs isolés mais autonomes, qui ont donc la possibilité en quelque sorte de se réorganiser par eux-mêmes de manière horizontale, à l'écart des partis, mais aussi de l'État, de l'usine et du monde du travail en général. Alors, c'est la version...
un peu enchantée, mais...
Enfin, c'est plus qu'enchantée, mais c'est pas sous-estimé parce que c'est... Ils ont joué un grand rôle dans toutes dans toutes les stratégies d'exode social, je dirais, hein, qu'on retrouve y compris au niveau des appellistes, de constellations. Alors, ils se détestent tous entre eux cordialement, bien évidemment, parce qu'ils sont en concurrence sur le même créneau. Mais ça a été la version, je dirais, universitaire officielle de cette stratégie-là, hein, Negri. Hein. Alors, il y a un passage là où Mouffe est assez clair là-dessus.
C'est pas la révolution par le télétravail. Sûrement.
Il y a un côté comme ça.
Ouais.
T'as un côté comme ça. T'as un côté comme ça parce que si tu veux, en tout cas par la désertion volontaire, hein, tu désertes effectivement le monde du salariat et donc le monde du salariat va s'effondrer de lui-même avec tous les outils de contrôle afférents et du coup on va pouvoir éventuellement penser à autre chose. Hein, et construire autre chose de manière horizontale, concertée, etc., etc. Et de ce point de vue-là, c'est pas une audience nulle. Hein. Donc effectivement, là, on parle pas du peuple, on parle des multitudes, comme tu dis. Les multitudes, c'est ça, en fait. C'est le prolétariat atomisé. Hein, c'est le prolétariat atomisé, donc c'est plus la classe ouvrière, mais effectivement il faut accélérer d'une certaine manière ce mouvement-là et donc il faut retourner à la campagne sur le plateau des Mille Vaches où on peut, etc., se réorganiser de manière horizontale, indépendamment de ce système salariat-État qui de toute façon va se casser la gueule et est en train de se casser la gueule parce que le développement du capitalisme l'amène à une contradiction inéluctable. Donc c'est intéressant parce que du coup, alors Mouffe ne croit pas du tout à ça, et là-dessus je pense que là elle a raison. Là, elle a raison et son approche est pas fausse sur ce point-là. Il y a par exemple un extrait, là, c'est page 77, où elle condense un petit peu ça. Donc sur ce qu'elle appelle, elle, cette stratégie d'exode, hein, donc effectivement, voilà, on quitte l'exploitation urbaine.
Parce que Marx s'appelait Robinsonade déjà, il y a longtemps.
Sauf qu'eux se réclament, d'une certaine manière, c'est encore du marxisme un peu orthodoxe, cette affaire. C'est ce qu'elle pense, elle, et je pense qu'elle n'a pas tort. Parce qu'elle formule ça comme ça, elle dit, donc page 77, cette stratégie d'exode est très à la mode dans plusieurs groupes d'activistes. Elle paraît très radicale, mais en réalité, on peut la voir comme la forme postmoderne du marxisme traditionnel. Si on y regarde bien, ce que défendent Hart et Negri, c'est une version plus sophistiquée du déterminisme de la Seconde Internationale, mais qui utilise à présent un vocabulaire influencé par Deleuze et Guattari. Alors, on traduit un peu après. Donc, déterminisme de la Seconde Internationale, c'est-à-dire la partie la plus, effectivement, soi-disant scientifique du mouvement ouvrier, hein, la Deuxième Internationale, c'est avant donc, la Révolution russe.
Et avec l'évolutionnisme en histoire,
voilà,
l'idée que...
Il y a des lois de l'histoire, il y a des lois nécessaires, il y a un déterminisme historique qui fait que nécessairement le capitalisme va à sa perte, il va s'enterrer, etc. Et d'une certaine manière, effectivement, cette idée-là, même si les conclusions sont différentes, on la retrouve là. C'est-à-dire que tu as un développement du capitalisme qui est inéluctable et il suffit de l'accompagner parce qu'il creuse sa tombe. Enfin, c'est toujours cette idée-là, quoi. Et en fait, là, tu la retrouves encore. Hein. Et d'après elle, donc on a customisé un peu ça avec de la philosophie un peu plus, comment dire...
Avec de la pop-philosophie.
De la pop-philosophie un peu hype, voilà, de Deleuze Guattari. Alors, elle reprend, ils disent multitude au lieu de prolétariat, mais finalement, c'est toujours une sorte de déterminisme économique. Au centre de leur réflexion, on trouve cette thèse. Les transformations du capitalisme liées à la transition au post-fordisme, donc la fin de l'usine et de la chaîne, hein, font que nous vivons une époque entièrement nouvelle. Avec le capitalisme cognitif, le rôle central joué précédemment dans la production de plus-value par la masse ouvrière en usine est maintenant rempli par la force de travail immatériel de type intellectuel et de communication. C'est pourquoi, pour se référer à la figure du travailleur collectif immatériel, ils utilisent un nouveau terme, celui de multitude. Cette multitude affronte l'empire, qui désigne le capitalisme globalisé et déterritorialisé, sans centre territorial ni frontières fixes. Ça, c'est ce qu'ils avaient développé dans Empire en 98. Hart et Negri affirment qu'avec le développement de ce capitalisme cognitif, le rôle de capitaliste est devenu parasitaire, et qu'avec la montée du pouvoir de la multitude, ils finiront par disparaître, les capitalistes. Cette vision optimiste, ça c'est sûr, explique pourquoi, selon cette perspective, il n'est pas nécessaire d'essayer de transformer les institutions existantes puisqu'elles sont destinées à disparaître. Ainsi, la stratégie d'exode qu'il propose est une stratégie de désertion, d'abandon des noyaux traditionnels de pouvoir pour établir en dehors d'eux des lieux où la multitude va s'auto-organiser et jouir de l'exercice de ce qui est en commun. Ils disent que la démocratie de la multitude s'exprime en un ensemble de minorités actives qui n'aspirent jamais à se transformer en majorité et au contraire développent un pouvoir qui refuse de devenir un gouvernement. La façon d'être de celle-ci consiste à agir par concertation, elle refuse de se convertir en État. Hart affirme qu'il y a trois approches du concept de multitude. Au niveau économique, multitude s'oppose à classe ouvrière, au niveau philosophique à peuple et au niveau politique à parti. Il faut dire qu'ils ont récemment modéré un peu ces manières de penser, mais je ne vois pas en quoi leurs déclarations les plus récentes peuvent être compatibles avec la problématique générale qui est la leur. Alors, c'est peut-être un peu méchant comme résumé, mais en même temps, ce n'est pas inintéressant. Et je trouve ça assez synthétique. Et pour le coup, ça renvoie à des choses et à des discours qu'on peut aussi entendre, y compris parmi pas mal de militants libertaires aujourd'hui. Hein. Notamment, je pense à toutes les mouvances, effectivement, néo-anarchistes, dont parle Constellation, hein, le livre qu'on avait aussi chroniqué, qui sont effectivement sur des stratégies de ça. Alors, les versions les plus caricaturales, c'est le groupe de Tarnac, qui ont la version la plus prophétique, je dirais, de cette approche-là, qui déteste Negri, au passage, parce qu'évidemment, ils
sont sur d'autres Tarnac, arguments. C'est Ticoun, puis Comité Invisible.
Comité Invisible, etc., gros succès d'édition. Et mobilisation militante pas complètement négligeable, faut quand même, faut le reconnaître quoi. Alors ils sont, encore une fois, c'est des gens qui détestent pour le coup cette version-là détestent les négristes parce qu'ils avancent de toute autre justification. Mais en termes de pratique, je dirais, de pratique, de forme de vie, on est sur des choses qui se ressemblent pas mal. Et au fond, derrière ça, il y a la critique effectivement de toutes les organisations, les formes de mobilisation aussi qui sont liées à la société industrielle, hein, voilà, que ce soit les syndicats ou les partis politiques. Donc, évidemment, c'est intéressant aussi de voir comment leur souci de construire un populisme de gauche, comme ils disent, Rund va même plus loin que ça, lui, il parle d'une mobilisation nationale populaire.
D'accord, oui.
C'est très clairement, de gauche, évidemment, d'après lui, mais d'abord, pour qu'elle soit de gauche et efficacement de gauche, il faut que d'abord qu'elle soit nationale populaire. Donc, cette construction-là, elle est aussi, d'une certaine manière, en concurrence et en réponse à des discours comme ceux qu'elle vient qu'elle attribue à Negri ou à Hart, mais dont il y a pas mal de versions, et qu'on trouve très souvent dans les mouvements sociaux, hein, et notamment dans les mouvements sociaux radicaux. Et aussi, il faut bien le dire, aussi chez pas mal de copains qui se réclament effectivement de l'anarchie ou des mouvements libertaires. Donc je trouve que là, sur cette affaire-là, c'est plutôt malin, hein, comme positionnement. Parce que voilà, effectivement, cette idée qu'il y a des lois de l'histoire et que le capitalisme creuse sa propre tombe et que de toute façon c'est réglé, qu'il n'y a qu'à juste laisser crever la bête en quelque sorte, il peut y avoir effectivement un côté...
Moi, ça me semble moins scientifique que prophétique, mais bon.
Ah bah, c'est prophétique et puis c'est surtout, c'est gentiment optimiste quand même.
Bah, hein, le capitalisme, il a l'air increvable, quoi. Mmh. Bon, on va passer... Tout à l'heure, vous avez entendu Kenny Arcana, Le changement viendra d'en bas, et là, on va vous passer un autre morceau de musique sympa, et puis on repassera ensuite pour la dernière partie. Amouf et Reron.
Araceli Maya, la Sierra, 2005. Me cansa esa mirada de superioridad intencionada. Y es que no te crees ni tú tus propias alabanzas. Avanzas, son altas de fantasía e ignorancia, creyéndote mejor desde la infancia. Si tu soledad no es mayor que Blas de Otero en ansia, paciencia, que te sientas Dios, no es cuestión de creencias. Simplemente es que llevas dos días, aunque en esto, como no. ¡Asúmelo! No eres el mejor en esta vida. Aplícate tus críticas y deja ya la envidia. Yo no digo lo que opino sobre ti. ¿Tú quién eres? Asume tu derrota, es tu única salida. ¡Asúmelo! No eres el mejor en esta vida. Aplícate tus críticas y deja ya la envidia. Yo no digo lo que opino sobre ti. ¿Tú quién eres? Asume tu derrota, es tu única salida. Antes de escuchar tu disco entero me dormí, pero quieres ligar conmigo porque eres mejor en sí. Me sorprende lo fácil que es para ti fingir. Tu ingenio se reduce a la imagen que dejas a los demás. Mejorar lo que haces te da igual. ¡Asúmelo! No eres el mejor en esta vida. Aplícate tus críticas y deja ya la envidia. Yo no digo lo que opino sobre ti. ¿Tú quién eres? Asume tu derrota, es tu única salida. ¡Asúmelo! No eres el mejor en esta vida. Aplícate tus críticas y deja ya la envidia. Yo no digo lo que opino sobre ti. ¿Tú quién eres? Asume tu derrota, es tu única salida. La suerte de ser fuerte es no tener que odiarte en parte, aunque tener que aguantarte me parte. Es todo un arte como camuflas tus complejos en un reflejo de lo que no eres. Vago intento por sentir que eres mejor. ¡Asúmelo! No eres quien dice ser. Que tienes ser pelele, crece, decide por ti mismo. La torpeza no se disimula con egocentrismo. Asúmelo, no eres el mejor en esta vida. Aplícate tus críticas y deja ya la envidia. Yo no digo lo que opino sobre ti. ¿Tú quién eres? Asume tu derrota, es tu única salida. Asúmelo, no eres el mejor en esta vida. Aplícate tus críticas y deja ya la envidia. Yo no digo lo que opino sobre ti. ¿Tú quién eres? Asume tu derrota, es tu única salida. Asúmelo, asúmelo. Asúmelo.
Asúmelo. Vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste, sans Dieu ni maître ni publicité. C'est Jeudi Noir qui se poursuit pour sa troisième et dernière partie de son émission de rentrée, dans un consacré à Chantal Mouffe et à Inigo Errejón, et au livre qu'ils ont écrit en commun, qui s'intitule « Construire un peuple pour une radicalisation de la démocratie », publié aux éditions du Cerf très très récemment. Voilà, et donc là on a exposé un petit peu avec Jean-Mathias les tenants, les aboutissants en matière intellectuelle de ces gens qui charpentent aussi le mouvement Podemos. C'est-à-dire, voilà, qu'est-ce qu'ils veulent et à qui ils s'opposent aussi à l'intérieur du champ de la gauche relativement radicale. Et donc, effectivement, là, c'est toujours marrant comme les débats reviennent un petit peu, entre ceux qui préfèrent effectivement essayer de déserter les institutions parce qu'ils les
estiment.
Et les organisations. Et les organisations parce qu'ils les estiment pas réformables,
voués à l'échec, à la disparition
ou à la trahison. Et c'est vrai que c'est.
Ben, il faut bien voir là, c'est l'extrait que je lisais là sur Negri et Hart.
Parce que moi, tu vois, ouais. Le truc, c'est que je me sens toujours un peu coincé parce que autant Constellation, Enco, je me vois pas. Enfin, je vois pas d'issue politique satisfaisante pour grand monde là-dedans. Et en même temps, là-dedans, je t'avoue, alors je suis peut-être un peu trop pessimiste, quoi, mais je me dis que ce genre de truc, ça donne des gens qui finalement recyclent leurs compétences au service de l'État à un moment ou à un autre, et puis finalement s'en sortent vachement bien. Et que tu retombes dans des schémas de bourgeoisie éclairée qui va expliquer au peuple ce qu'il faut faire et qui va le faire pour eux parce qu'ils sont bien gentils. Tu vois, je dis pas que c'est entièrement, tu vois, je suis pas dans un truc genre c'est le mal, hein, c'est pas ça.
Non, mais là-dessus, il y a pas
à discuter, quoi.
Non,
mais faut peut-être le.
Moi, j'ai qu'un seul souci, moi, c'est que les gens qui s'identifient d'une manière ou d'une autre dans l'anarcho-syndicalisme soient équipés contre ces gens-là. Voilà, qui soit négriste, qui soit podémiste, mélenchoniste, voilà, sachant que c'est un débat quoi, qui existe il faut voir comment il se pose.
Ah, c'est pas inintéressant.
Il faut avoir les outils intellectuels pour répondre à ça et puis pour répondre aussi aux tentations qui vont avec. Moi, là, par exemple, sur ce que je disais à l'instant là avant la pause sur Negri, ce que Mouffe dit de Negri et la manière dont elle résume, c'est ce qu'elle appelle les stratégies d'exode ou de désertion. Elle va vite bien sûr là-dessus parce qu'il y a plein de manières de faire ça, mais la manière dont elle fait ça, moi je suis pas le seul, c'est des discours qu'on a beaucoup entendu après 2003, notamment suite au mouvement des intermittents on explique aussi ce type de mobilisation là, c'est-à-dire que on est sur un système de couverture sociale qui est justement plus celui du salariat, hein, qui est plus celui du salariat, on est sur autre chose, et effectivement c'est des gens qui sont aussi beaucoup plus sensibles à cette approche comme celle de Negri et qui pensent l'intermittence comme l'avenir du salariat, en fait. Hein, et qui sont persuadés qu'effectivement tout va vers un système d'assurance de ce type-là, et que toutes les couvertures qui sont appuyées sur le salariat encore aujourd'hui, alors effectivement, qui sont en perte de vitesse et qui sont attaquées, voilà, que ce soit les retraites, chômage, sécu, effectivement, que tous ces appareils, toute cette protection sociale-là, qui est liée effectivement au salariat, même si c'est financé par le salariat, est appelée à disparaître. Et donc, effectivement, en 2003, et après, notamment autour de la coordination des intermittents et précaires, les discours de Negri ont eu une résonance importante, et puis ils en ont toujours. Alors de ce point de vue là voilà, effectivement la stratégie qui est la leur consiste à essayer de dire que il y a peut-être une forme de déni des rapports de pouvoir réels et notamment de l'action de l'État dans cette affaire là ce que pour le coup je pense qu'elle a raison, c'est-à-dire que il peut y avoir encore beaucoup de désertions et d'exodes néo-rural avant que l'État commence à s'inquiéter. Hein. Je pense qu'à mon avis, il y a de la place. Hein. La France est déserte, donc voilà. Installez les yourtes, posez les tentes, sortez les bottes de plastique, et puis on y va.
Et puis ensuite, moi, j'aurais tendance à penser aussi que si le capitalisme est réellement menacé, c'est pas forcément l'usage des armes par les forces de l'ordre pourrait radicalement changer aussi.
Donc de ce côté-là, voilà. Enfin, c'est pas des débats complètement inintéressants, même si évidemment ça vite la manière dont elle résume ça. Alors là où ça marche encore, où je suis encore, c'est évidemment le alors, mais seulement en partie, c'est la manière dont ils répondent. Alors, évidemment, à l'opposé du spectre, je dirais, là, on est plutôt du côté de la gauche social-démocrate ou électoraliste habituelle, mais qu'on trouve aussi encore... quand même, voilà, dans les syndicats, parfois même en manifestation, parfois même dans des réunions publiques, dans des meetings. Donc voilà, donc parlons des militants de gauche honnêtes des militants socialistes honnêtes, s'il y en a encore, ou convaincus, s'il y en a encore. Je pense qu'il y en a encore. Je pense qu'il y en a encore. Ça ne veut pas dire qu'ils ont raison, ça ne veut pas dire que l'organisation n'est pas pourrie, etc. Mais on s'adresse à des militants. Et du point de vue de ces discours. Elle anticipe aussi là-dessus. Elle dit finalement ce qu'elle reproche à ces approches-là. Bon, il y a la critique des organisations et des politiques menées concrètement par les partis socialistes européens. Donc là-dessus, bon, voilà, pas de débat. Mais après, pour les gens qui se reconnaissent, hein, qui se reconnaissent encore dans ces organisations-là, il y a cette idée, effectivement, d'après elle, une espèce d'erreur à refuser les antagonismes et à penser effectivement la politique comme la recherche d'une majorité consensuelle. Voilà. Et au fond, du coup, on construit des alliances, on construit une unité consensuelle qui va permettre d'être à 51%. Voilà. Quel qu'en soit le prix. Et au fond, le but de la politique, c'est ça, parce que sinon, c'est la guerre, parce que sinon, c'est l'affrontement, c'est la guerre civile et c'est la violence et c'est pas bien. Je caricature, mais c'est un ressort puissant, ça. Hein, effectivement, la recherche d'unité, la recherche... Et qui n'est pas complètement illégitime. Je veux dire, effectivement, le souci d'élargir au maximum, c'est aussi, effectivement, une forme de souci démocratique. Ce n'est pas le seul, loin de là. Et puis, il faut voir le coup que ça a. Et effectivement... mais même en soi, ce n'est pas, c'est pas forcément critiquable en soi. Bon. Et... Le point, bon, en tout cas, c'est pas non plus pour en discuter, ça, l'espèce de fantasme majoritaire, évidemment, voilà, je vais me faire arracher les yeux par plein de gens que je connais, mais c'est en tout cas, c'est un ressort politique puissant, voilà. Donc comment on répond à ça? Donc c'est pareil, c'est Reron qui répond à ça, on est un peu plus loin, page 92, il dit, à l'opposé, on trouve une critique quotidienne qui s'abreuve plutôt à la source du libéralisme, disant, mais quel besoin y a-t-il de diviser? Pourquoi voulez-vous diviser les gens en nous et eux? N'est-il pas plus facile d'être tous du même côté? Du même côté, sous-entendu, effectivement, voilà.
Bah, si on parle en termes de côté,
oui,
si
mais front social, hein, social, front républicain, front ce que vous voulez, 51%, voilà, plutôt Macron que Le Pen, etc., etc. Hein, je veux dire, c'est cette logique-là qui est derrière. Hein. Pour moi, c'est une critique, d'après Reron, hein, qui oublie premièrement qu'il y a de toute évidence une répartition des biens, des bénéfices sociaux qui est nettement asymétrique. Donc évidemment, c'est une manière de perdre de vue une division des richesses et des biens qui est bien réelle. Hein. Et il dit, voilà, il ne suffit pas de les nommer pour que ces mots disparaissent. Hein. Les nommer, c'est la meilleure façon, dit Reron, de les faire entrer dans les tâches de l'action publique. Et presque tous ceux qui voient de l'agressivité dans le fait de nommer tous ces mots oublient généralement que ces mots existent au-delà de ce qui est chiffrable. Et ils oublient d'autre part, dit-il, que toute identité qui motive une personne, alors je cite ça parce que c'est important sur la suite, y compris sur les critiques les plus fortes que j'ai à leur égard. Les tenants de cette idée oublient d'autre part que toute identité qui motive une personne a toujours un en dehors constitutif, on revient à ce qu'on disait au début. Personne n'éprouve de joie euphorique à brandir le drapeau des Nations Unies ou le drapeau blanc, parce que ni l'un ni l'autre n'ont un en dehors par rapport auquel définir un en dedans. Toute identité demande une différence que l'on postule comme plus importante, si bien que la politique se nourrit de l'affect produit par le choc de nous et eux. Alors ça, là, je suis gêné par cette approche-là, parce que si tu veux, il n'y a pas que du faux dans cette affaire, c'est-à-dire qu'effectivement, plus l'ennemi est méchant et horrible et dominant, et plus c'est facile de construire une force collective pour s'y opposer. Donc effectivement, plus on est consensuel et plus on vise effectivement à établir des majorités, ou plus on vise à établir des recherches de 51%, plus on risque effectivement de démobiliser les gens. Et alors là, c'est là où je marche plus du tout. C'est qu'en fait, son approche, là c'est un truc qui reprend à Carl Schmitt, qui est le théoricien, juriste nazi, beaucoup discuté
qu'on a commenté dans cette émission,
à la gauche radicale, que ce soit chez Mouffe ou chez d'autres. Et cette idée, c'est que au fond, il faut en politique, il faut toujours un ennemi. Hein, que les amis se déterminent par rapport aux ennemis qu'on a. Et ajoute Reron, alors là il y va franco, il faut qu'en politique, pour que ça marche et pour que ce soit efficace, il faut qu'il y ait des passions. Il faut qu'il y ait des passions de masse. Il faut qu'il y ait des passions de masse et ces passions de masse, on les déclenche contre un ennemi commun. Et alors, Moi, je veux bien, parce que si tu veux, en termes d'efficacité politique, personne ne dira le contraire, effectivement. Et je ne suis pas du tout d'ailleurs sûr qu'il y ait besoin d'aller chercher bien loin pour, effectivement, construire un ennemi imaginaire. Je ne vois pas pourquoi c'est uniquement de la tactique, cette affaire-là, parce que les faits parlent quand même d'eux-mêmes, souvent, la plupart du temps. Mais surtout, là où je ne marche plus, c'est quand, effectivement, le ressort essentiel de la politique, c'est l'identification à une masse... qui a un ennemi commun. Parce que ça, en fait, ça veut dire que la politique, c'est le lynchage. Hein ? Il y a une autre manière de le dire. C'est-à-dire qu'effectivement, alors, il y a peut-être des lynchages de gauche et des lynchages de droite. Vaut peut-être mieux, effectivement, on a peut-être plus de sympathie ou moins d'antipathie pour les lynchages de gauche, mais moi, j'avoue que je n'ai pas de sympathie pour les lynchages tout court. Et c'est surtout une manière, alors là, pour le coup, qui, à mon avis, est à la fois fausse et en même temps, pour le coup, dangereuse de penser la politique d'un point de vue démocratique. C'est-à-dire qu'en fait, penser que la démocratie, c'est avant tout être capable de mobiliser les passions populaires, bah ça, pour le coup, si c'est pas un fantasme d'état-major, je ne sais pas ce que c'est. Et c'est aussi une manière, finalement, c'est non seulement un fantasme d'état-major, mais je dirais que c'est un fantasme élitiste. Parce que c'est une manière de considérer que le peuple, en fait, il a d'abord des passions. Il réagit d'abord avec ses tripes avant de réfléchir. Alors heureusement qu'il y a des gens comme Chantal Mouffe ou Eric Ron qui peuvent réfléchir et qui peuvent lui donner des orientations et qui peuvent savoir comment utiliser les passions populaires à bon escient, parce que le peuple, lui, il n'est pas bien capable de le faire. Mais là, il y a vraiment une divergence de fond. C'est-à-dire que sur la place des passions et de la raison en politique, ça paraît peut-être un problème un peu abstrait de dire ça comme ça. Mais moi, je reste persuadé qu'effectivement, l'analyse des faits et le raisonnement, y compris à l'échelle individuelle, alors dans le cadre d'organisation politique, c'est la base d'un engagement politique et d'une pratique politique libertaire. Et qu'effectivement, si on a des petits chefs d'état-major qui, eux, sont persuadés que ce qu'il faut, c'est trouver de quoi mobiliser les masses en travaillant sur leur passion parce qu'elles ne sont pas très capables de réfléchir ou pas très capables de traiter les faits ou de se faire une vision construite. Alors là, pour le coup, je ne suis pas sûr qu'on est effectivement dans un grand progrès politique. Alors, c'est sans doute ce qui se situe. Voilà, il y a de l'efficacité dans cette affaire-là, mais pour le coup... Là, je marche plus. Et je crains qu'effectivement, derrière ça, on est plutôt du mauvais temps et pas grand chose d'efficace à moyen ou à long terme. Voilà, donc c'est une des principales critiques. Bon, cela dit, encore une fois, je le conseille, il se lit bien, c'est une lecture plutôt facile parce que c'est un dialogue, c'est un débat, il se relance mutuellement. Il n'est pas difficile d'accès particulièrement, bon, ça référence un peu. Et puis surtout, faut être équipé par rapport aux gens qui sont persuadés d'avoir des meilleures idées que nous.
Voilà, c'était Jeudi Noir, on laisse l'antenne donc à Entre Chien et Loup avec Willy et Enco. A plus.
Faces with the very same name, and we look like each other, and we all live together, and we talk about the same things, and we never try and change things.
We're the happy, happy people. Yeah, we're the happy, happy people. The happy, happy people. The happy, happy people.
We never give opinions, and we never state.
Say it's true.
And if you want to join us, you can follow on behind us. You can talk about your visions. You can make some big decisions.
We're the happy, happy people. Yeah, we're the happy, happy people. The happy, happy people. The happy, happy people.
Smiling all the time, and sometimes we're on TV if we're over 69. And when we have a raffle, then it's just a big reshuffle. It's a democratic poll, but we're the ones who're in control.
'Cause we're the happy, happy people. The happy, happy.
happy.